dissonances.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Cette émission de Dissonance est consacrée au Centre de sauvegarde de la faune sauvage Cossenard et plus particulièrement à l'action de son fondateur, passionné et passionnant, Monsieur Jean-Claude Ostruy.
Mais avant de l'écouter, c'est Elsa Dauphin qui va intervenir sur nos ondes avec sa chronique poélytique mensuelle.
Les milans noirs sont revenus. Les milans noirs sont revenus. Ils ont pris leur envol d'un commun accord, quitté le continent à leur couleur et emprunté un chemin de terre et d'eau. Dans le claquement sec de leur rémige, l'odeur de l'Afrique s'est dissipée au-dessus du détroit de Gibraltar. 15 kilomètres d'un rivage à l'autre. Ils ont filé dans les embruns, emplissant le ciel de leurs nuées sombres pour une traversée périlleuse à l'issue hypothétique. Longue est la route, où parfois tombent comme neige noire les corps affaiblis, bercés par le frisolis d'une vague. Radeau de plumes sans histoire. Les oiseaux savent-ils le désespoir ? Ils ont abordé les côtes blanches et poudrées d'ombre la houle précieuse de l'Occident. Les milans noirs sont revenus. Ils boivent l'eau des pluies fraîches de mars et se dressent au faîte des arbres nus. Éclat de syrinx dans l'air calme des campagnes, hennissement de victoire, des chevaux sur les branches. Tout le ciel alors, comme une écurie, résonne du galop des rapaces, leurs ailes noires ourlant la crinière blanche des nuages. Ils font berceau les nids de corneilles et de corbeaux. Ils attendent, à l'abri des houppiers, le déploiement ultime des limbes et les fissures aux parois nacrées des coquilles. Les oiseaux savent le temps. Dans la touffeur de juillet, ils font école. Ils enseignent le vol dans le souffle du vent. Ils apprennent l'odeur et le goût des campagnols et des chairs putrides à disputer aux insectes saprophages. Ils font plume et se comptent dans les grappes aux ramures des peupliers. Ils scrutent les lunes pleines, les lunes noires, et jouent à 1, 2, 3 soleils dans la lumière déclinante de septembre. Les milans noirs partiront bientôt. Les oiseaux savent-ils l'avenir ?
Nombreux sont celles et ceux qui viennent de tout l'Aveyron, mais aussi du Tarn, de l'Auxerre, du Cantal, de l'Hérault et même du Gard, qui n'hésitent pas à faire plus de 200 km pour faire soigner un animal sauvage. Ils savent qu'au centre de sauvegarde de la faune sauvage basé à Millau se trouvera une oreille attentive, un accueil chaleureux et feront la connaissance de Jean-Claude Ostruy, un homme dévoué et passionné qui fera tout pour sauver soit le martinet, le hérisson, la chouette, le castor, le grand-duc, le renard, la toute petite pipistrelle, l'immense vautour, le magnifique busard Saint-Martin ou même le majestueux aigle royal.
Aujourd'hui, pendant une heure, il sera question d'un homme que la vie destinée à conduire des locomotives. Aujourd'hui, à travers le reportage de Maud Pesser, stagiaire, nous découvrirons la richesse de ce centre de sauvegarde. Aujourd'hui, nous nous interrogerons sur le silence du parc naturel des Grands Causses qui ignore cette action d'intérêt général.
Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Ostruy. Je suis avant tout un passionné d'environnement et cela depuis très 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 longtemps puisque ce virus, il m'a pris lorsque j'avais 14-15 ans. J'ai eu la chance de connaître des gens qui étaient des passionnés d'environnement et qui m'ont transmis un petit peu cette maladie.
Et vous êtes d'un milieu qui était déjà sensibilisé à l'environnement de par vos parents, de par vos grands-parents ?
Alors je suis issu d'une famille un petit peu nombreuse puisque j'étais le plus jeune de 6 personnes et mes parents étaient très occupés à élever mes frères et sœurs et puis à faire vivre un petit peu tout ce monde. Donc c'est vrai qu'on avait une certaine autonomie et dès qu'on sortait de la maison, même si on était un petit peu à la campagne autour, on était chez nous.
Et alors après, au niveau des études, ça n'existait pas à cette époque-là, les filières écologie, c'était les années 50 et les années 60?
Et à ce moment-là, il n'y avait pas de métier vraiment lié à l'environnement, en dehors des gens qui après avoir fait leurs premières études et être allés en faculté, devenaient soit professeurs en biologie ou soit faisaient de la recherche appliquée dans les laboratoires, les choses comme ça, en matière d'environnement. Mais pour le reste, les gens qui s'occupaient vraiment d'environnement étaient avant tout des observateurs ou des passionnés ou des bénévoles.
Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été votre cursus professionnel?
J'étais prédestiné au départ à devenir un conducteur de train. Hein. J'ai pu rentrer à la SNCF après avoir passé les concours. Et donc, je suis parti 3 ans à Béziers. Et c'est juste avant de partir à Béziers que j'avais commencé à m'intéresser vraiment à tout ce qui touchait à la nature. Et donc j'ai continué sur Béziers, puisque j'ai eu la chance là-bas aussi de retrouver des gens qui étaient comme moi à l'époque bagueurs ou aide-bagueurs pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et puis l'aventure a continué, en même temps que j'ai eu mon cursus de formation professionnelle, et bien j'ai continué ma passion. Qui était donc à l'époque surtout la connaissance des espèces animales et des oiseaux en particulier.
D'accord, donc cheminot, vous conduisiez des trains, vous travaillez à la SNCF, c'est ça?
Alors, j'aurais dû conduire des trains, puisque j'ai fait 3 ans de formation pour cela. Alors, le problème à la SNCF, c'est qu'à l'époque, il y avait des centres d'apprentissage. Hein, on y rentrait, c'était très fermé, puisqu'il fallait y rentrer sur concours, et il y avait, comme dans les concours actuels, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc j'ai eu cette chance. Le problème, c'est qu'au bout de 3 ans, en général, on sortait de ce centre d'apprentissage avec un CAP à 17-18 ans. Mais lorsqu'on sortait, on était d'abord aide mécanicien, c'est-à-dire on conduisait les trains en binôme. Après, on était élève, après on était mécano, mais ça, c'était au bout de 20 ans. Et quand on a 17-18 ans et qu'on est aide mécano, et bien, en fait, on travaille surtout l'été et surtout le samedi et le dimanche.
D'accord.
Donc, sur notre promotion, une trentaine d'élèves, ben, en fait, qui sont restés vraiment dans cette branche-là, il n'y en a eu même pas la moitié. Tous les autres se retrouvaient entre 17 et 25 ans, condamnés un petit peu à travailler tous les week-ends et toutes les vacances. Il n'y en a pas beaucoup qui acceptaient.
D'accord. Donc, du temps libre pour s'intéresser aux animaux, à la faune, à la
entre
flore.
Autres. Entre voilà, autres.
Effectivement. Que yo vivo preguntándome para que la tierra es tan redonda y una sola no más. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no los queremos ni mirar? Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome ¿para qué la tierra es tan redonda? Una sola no más. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar?
Dissonance.
Jean-Claude Ostruy.
Sur Radio Centrafrique.
J'ai souvenir de vous comme membre, et même plus que membre, peut-être responsable d'une association qui s'appelait Nature Aveyron. Donc ça a été votre premier engagement associatif?
Alors c'est presque ça. En fait, notre premier engagement associatif, c'est avec 2 autres passionnés comme moi qui étaient sur Millau. Lorsque la Maison des Jeunes et de la Culture s'est ouverte, on a créé le Centre Ornithologique Aveyron, qui était une section de la Maison des Jeunes et de la Culture de Millau. Et puis au bout de quelques années, ça devait être dans les années 68 jusqu'à 72, Ben, on est devenu indépendant puisqu'on était quand même un petit peu à l'étroit dans la MJC. Dès qu'on voulait faire quelque chose, on voulait faire nous. On était dynamique, on faisait des expositions, on essayait de récupérer à droite et à gauche des fonds pour faire tourner l'association et le centre ornithologique. Donc. Et on est devenu indépendant. On est devenu indépendant dans les années 60, 61, 72. Et puis un petit peu plus tard, dans cette association, les adhérents ont trouvé que finalement l'ornithologie c'était bien, mais qu'il n'y avait pas que les petits oiseaux, qu'il fallait aussi s'intéresser à d'autres problèmes liés à l'environnement, comme l'air, l'eau, les déchets. Et puis comme les adhérents l'ont souhaité, nous sommes devenus l'association Nature Aveyron, qui était la seule association environnementale qu'il y a eu sur le département pendant au moins 15-20 ans, jusqu'à, on va dire, les années 1995. On était quand même localisé sur le département de l'Aveyron, hein, avec des adhérents répartis sur tout le département, des sections locales. On avait une section Nature Aveyron à Espalion, il y en avait une autre sur Odès. Donc on fonctionnait comme ça, et puis ça a marché pendant une bonne vingtaine d'années. Alors, Nature Aveyron, il faut dire qu'on a quand même réussi des grandes choses. Hein. On a réussi des grandes choses, puisqu'on a participé en 1981 en tant que partenaire à la réintroduction des vautours dans les gorges de la Jonte. Ça, c'était en 1981. Donc, Parc national des Cévennes, Fonds d'intervention pour les rapaces, qui par la suite est devenu la LPO et l'association Nature Aveyron. Hein. Nous étions trois. Nous avons aussi, alors ça c'est un petit peu plus polémique, mais bon, nous avons réintroduit le castor sur l'Aveyron, puisqu'il avait disparu au 16e, 17e siècle, disparu à cause de l'homme, il faut bien le dire. Et pour nous, il nous semble important de réintroduire une espèce qui avait disparu à cause de l'homme. Si c'est l'homme en plus qui l'a réintroduit, c'est encore mieux. Alors c'est une espèce qui ne pas toujours la bienvenue. Ici, il faut dire que sur la région, je ne comprends pas trop pourquoi, parce que le castor, finalement, c'est un animal qui est relativement rare, qui est nocturne, qui mange des arbres et les causes des arbres. Ici, il n'y a pas de grosses cultures d'arbres près des rivières, il n'y a pas d'exploitation d'arbres fruitiers. Lorsque le castor mange un arbre, alors effectivement, il y a des gens qui montent au créneau en disant « ça y est, il a détruit un arbre ». Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'il y a des crues et que ces mêmes arbres sont abattus par les crues et qu'ils pourrissent sur place, là, on n'y a rien. Mmh. Donc je suis toujours un petit peu surpris de la réaction de certaines personnes. Mais bon, c'est marginal. Hein. Oui, beaucoup de gens sont bien contents d'avoir cette espèce, que d'ailleurs on peut voir facilement. Il suffit de se promener le soir à la tombée de la nuit sur les berges du Tarn ou même un petit peu plus bas sur les affluents du Tarn et on arrive à les voir assez facilement.
Pour en revenir à la création du centre.
Donc au niveau de l'association Nature Aveyron, on a commencé à recevoir des appels de personnes qui trouvaient des animaux en difficulté et qui bien sûr s'adressaient à une association environnementale. Et puis on s'est aperçu qu'il y en avait de plus en plus, donc à un moment donné on s'est dit il faut faire quelque chose, il faut essayer d'accueillir ces animaux dans des bonnes conditions pour pouvoir les relâcher dans la nature. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à créer le centre de sauvegarde, ici, sur ce terrain que j'ai mis à disposition dans l'association.
Sur un terrain qui vous appartient, que vous avez donc
C'est un terrain qui m'appartient à moi et à ma famille.
D'accord, et donc après se sont créés les bâtiments avec des jeunes, avec des gens de l'association.
Voilà, alors là-dessus, on a commencé à s'investir un petit peu dans la construction de cette structure. À l'époque, à l'association, ça faisait déjà pas mal de temps que à l'association Nature Aveyron, on embauchait entre guillemets des jeunes qui étaient dans des emplois aidés. Hein. Par la suite, quand on a créé le centre, c'était la période où il y avait aussi des objecteurs de conscience, les gens qui refusaient de faire l'armée et qui en échange étaient mis à disposition d'une association d'intérêt général pendant 2 ans, à la place de faire une année d'armée. Donc on a construit petit à petit ce centre grâce à eux. Et puis, bon, au sein de Nature Aveyron, quelques voix ont commencé à s'élever en disant qu'on était très très polarisé par le centre, qu'on laissait tomber d'autres activités, ce qui était peut-être le cas d'ailleurs. Hein. Le problème dans une association, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui tirent, qui fassent un petit peu les tracteurs, et puis les gens qui font les tracteurs, eh bien, c'est un petit peu qui rentrent hein, souvent l'activité de l'association. Après, il y a aussi les beaux parleurs qui souhaitent qu'on fasse beaucoup de choses, mais qui ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu laissé attirer par le centre de sauvegarde.
D'accord.
Et à partir de là, on a dit, bon, bah, créer une association à part qui pourra par la suite gérer le centre de sauvegarde. Et puis donc, j'avais décidé aussi de passer la main au niveau de Nature Aviron, puisqu'il y avait des gens qui désiraient de s'investir un petit peu plus dans notre domaine, et bien ma foi... il ne faut surtout pas empêcher les bonnes volontés de se mettre en œuvre. Et à partir de là, moi, je me suis retiré de Nature Aviron.
C'est pourquoi qu'on vit, papa. C'est pourquoi qu'on vit. J'en sais rien, mon ouistiti. Je sais vraiment pas. Peut-être pour admirer au 14 juillet le feu d'artifice dans un ciel d'été, peut-être pour fabriquer un château de sable que la mer a emporté. C'est pourquoi qu'on vit, papa, c'est pourquoi qu'on vit. J'en sais rien, mon koala, je sais vraiment pas. Peut-être pour la douceur d'un matin fragile, peut-être pour la fraîcheur d'un soir en avril, peut-être pour quatre gouttes de pluie sur ta main, vite évaporée comme un court chagrin. C'est pourquoi qu'on vit, papa, c'est pourquoi qu'on vit. J'en sais rien, mon koala, je sais vraiment pas. J'éteins la lumière, il est tard déjà. Demain y a école, n'oublie pas. C'est possible qu'un jour, un petit panda te demande à son tour, et dis-moi papa, c'est pourquoi qu'on vit, c'est pourquoi qu'on vit, c'est pourquoi qu'on vit, dis-moi, je sais pas. Dors.
Dissonance.
Jean-Claude Ostruy.
Sur Radio Centrafrique.
Quel est le public qui vient vous apporter des animaux blessés ?
La plupart des gens qui découvrent un animal sauvage en difficulté blessé, bon, certains doivent passer à côté sans même les regarder. Mais ceux qui, en général, les récupèrent sont très sensibles à la cause animale, à la cause animale et aux espèces sauvages. Et donc, à partir de là, ils essayent de se renseigner qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent essayer de sauver cet animal. Et on a une chance quand même qui nous aide beaucoup actuellement, c'est que grâce au développement des médias, les nouveaux médias, hein, en particulier au niveau d'Internet, eh bien, il suffit de chercher un petit peu partout et puis on arrive toujours à trouver un centre de sauvegarde quelque part en France. C'était beaucoup plus compliqué il y a une vingtaine d'années puisque on avait surtout affaire aux services de l'État, que ce soit la garderie départementale de l'Office national de la chasse, les gardes des départs nationaux, les gendarmes, les pompiers. Il y avait pratiquement qu'eux qui nous connaissaient. Et à partir de là, pour les gens qui trouvaient des animaux, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, ça devient beaucoup plus simple. Et je dois dire que c'est probablement la raison qui fait qu'on en reçoit de plus en plus. C'est aussi probablement la raison qui fait qu'on est de plus en plus saturé au niveau des appels téléphoniques, puisque les gens nous appellent parfois aussi pour juste un petit renseignement et non pas pour intervenir directement.
Je suis curieuse de savoir la variété des animaux qu'on vous amène. Est-ce que c'est surtout des oiseaux ou alors est-ce qu'il y a des animaux surprenants qu'on vous appelle pour des animaux un peu particuliers ?
Alors, vous savez, en fait, on nous contacte pratiquement pour tout. Alors, ce qui est surprenant, c'est que lorsque, par exemple, de Toulouse, une personne vous appelle pour vous dire « Ah, on a trouvé un petit martinet qui est au sol », Toulouse, c'est déjà pas la porte à côté, mais il n'y a pas de centre de sauvegarde à Toulouse, hein, il n'y a que l'école vétérinaire qui est fermée l'été. Et puis ces gens-là, vous essayez de leur donner des conseils, et puis vous leur dites, mais des martinets, on en reçoit une cinquantaine par an. Et puis il y a des gens, c'est courant, ça arrive couramment, et bien ils prennent leur voiture et ils nous amènent un martinet. Donc ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont capables de qui font 400, 500 km pour se déplacer pour amener un martinet. Ça fait partie des choses qui surprennent un petit peu, parce que bon, martinet, c'est une espèce qui est relativement commune. Après, bon, pour le reste des surprises, on en a toujours aussi, hein. Lorsque, par exemple, il y a quelques années, on avait récupéré sur le plateau du Larzac, un plongeon arctique. Un plongeon arctique, c'est un oiseau normalement qui vit dans la mer du Nord. Retrouver ce genre d'oiseau sur le plateau du Larzac, c'est assez surprenant. Et c'est un oiseau qui a vraisemblablement traversé toute la France et s'est retrouvé pêché par une tempête et coincé au sol. Après, dans les animaux courants, je crois que effectivement ici on a quand même pas mal de faucons cresserelles, quelques chouettes chevêches, des buses variables bien sûr, mais après il y a aussi parfois des animaux un petit peu plus emblématiques, hein, qui sont beaucoup plus rares et qu'on reçoit. Mais ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est de voir que parfois des gens sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour amener l'écureuil, ça peut être aussi des hérissons, on reçoit beaucoup de hérissons. Et les gens qui ont des hérissons chez eux sont vraiment très attachés à cet animal. Ça, c'est un animal, le hérisson, qui, on peut le dire, lui, a vraiment une très très bonne réputation.
Tous les animaux se soignent de la même façon?
Alors non, c'est vrai que chaque animal, ce qui est important dans un centre de sauvegarde, ce sont les soins aux animaux, bien sûr. Mais chaque animal est différent, et ça c'est un petit peu grâce à l'Union française des centres de sauvegarde et à la mise en commun des connaissances qu'on arrive à avoir des protocoles qui ont été faits aussi parfois par des vétérinaires d'ailleurs, qui nous permettent de traiter au mieux chaque animal en fonction de l'handicap qu'il peut avoir. Mais ce qui est certain aussi, c'est que c'est là surtout que notre rôle est important, c'est que les gens qui s'occupent de centres de sauvegarde doivent être à même d'assister les vétérinaires, d'une part pour soigner les animaux, mais surtout à même de bien connaître la biologie de chaque espèce qu'ils reçoivent, de façon à pouvoir les réintroduire dans le milieu naturel dans les meilleures conditions. Cette phase-là, elle est au moins aussi importante que l'accueil de l'animal et les soins. Parce que si un animal n'est pas relâché dans les bonnes conditions, il n'a aucune chance de survie. Si c'est un migrateur, on ne va pas le relâcher en plein hiver. Si c'est un vautour, on ne va pas le relâcher au bord de la rivière, on va le monter en altitude. Si c'est un castor, je ne vais pas le relâcher sur le plateau de l'Arzac. Alors j'image un petit peu, hein, là, ça semble être des raisonnements de bon sens, mais il y a des fois où c'est beaucoup plus subtil.
Vous travaillez ici en collaboration avec les vétérinaires de Millau ou de la région?
Oui, alors d'une manière générale, les vétérinaires n'ont pas obligation de soigner la faune sauvage. Hein. Nous avons la chance d'avoir sur Millau des vétérinaires qui nous aident dans cette opération en nous faisant participer, on va dire, financièrement à leur travail, mais de façon très modique. Donc il y a une grosse part de bénévolat chez eux aussi, et ça c'est important pour nous.
Il n'y aurait pas un volet d'intervention de votre centre dans les écoles ?
Le volet formation à l'environnement, c'est quelque chose qui sur l'Aveyron est très très pris, hein. Il y a de la concurrence, on va dire. Il y a d'une part le Centre permanent d'initiation à l'environnement, qui est une structure qui a été créée par les collectivités et qui est très largement soutenue par les collectivités. Donc ça lui permet effectivement de faire une éducation à l'environnement au niveau des écoles qui est pas très chère. Et donc il est impossible de concurrencer ce genre d'activité. Mais ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, au niveau du centre de sauvegarde, c'est vrai qu'on est un partenaire de l'éducation à l'environnement, dans la mesure où on reçoit beaucoup de stagiaires, des stagiaires qui, de la classe de découverte 4e jusqu'au master, c'est-à-dire bac plus 5-6, viennent ici pour découvrir soit des espèces, soit des méthodes liées aux études en matière d'inventaire sur l'environnement, que ce soit sur la faune et sur la flore. Pour ce qui nous concerne, on reçoit beaucoup de stagiaires issus en particulier de l'école de Valarens, la MFR de Valarens, et puis aussi qui prépare MFR de Valarens et soit des BTS liés à l'environnement, soit des bacs professionnels, ou alors le lycée agricole de La Roque aussi, qui lui prépare des métiers comme des bacs sciences et technologies de l'environnement. Et puis après, master, ce sont des jeunes qui sont issus de soit d'IUT, soit de facultés.
Maud Pesser, jeune stagiaire de 15 ans, nous fait découvrir le centre de sauvegarde de la faune sauvage en Aveyron.
Dissonance
sur Radio Centrafrique.
Aujourd'hui, il sera question du centre de sauvegarde de la faune sauvage Cosse-Nord. Aujourd'hui, nous voulons vous faire connaître les missions de ce centre de sauvegarde. Aujourd'hui, grâce à Jean-Claude Ostruy, nous saurons ce que ce centre apporte à la réintroduction des espèces menacées.
Dissonance avec
Maud Pesser
sur Radio Centrafrique.
Quand elle a vu le boulon arriver, tout d'un coup, elle a trouvé la force, elle est passée à travers le tirage, parce que le tirage, je ne peux pas la démonter, quoi.
Voilà, c'est bon.
Et Kiki ? Bon, elle n'est pas mauvaise, là. Oui, j'ai un peu...
Ah, il y avait la cage, hein ?
Ah, ouais.
Alors, votre conduit, il a l'air propre, parce que finalement, mais de la suite,
elle a l'air propre. Je remonte chaque année, mais elle me l'a ramonné. Hein. Ma femme avait fait la cheminée il y a 3 jours.
Ça n'a pas l'air, elle sert un peu la suie, mais au niveau des yeux, ça a l'air bon. C'est surtout ça qui m'inquiétait. Non, elle est bien. Hein.
Je peux la relâcher alors.
Ah oui, mais on va peut-être la nourrir avant.
Ouais.
Hein, tu vas aller me chercher là-haut 3 poussins, 2 ou 3 poussins. Et vous la relâcherez quand ce soir, mais là on va la nourrir.
Demain, je ne suis pas là pour la nourrir.
On prend les poussins de là, et on descendra. Non, mais là, il n'y en a que 2 poussins. Il y a 2-3, donc c'est bon. Okay. On changera les poussins.
On peut mal la nourrir.
Ouais, parce qu'elle doit avoir faim, la pauvre.
Ah, oh, moi, c'est là, des collègues. T'en as amené qu'un ?
Non, elle est en train d'en amener un deuxième. Eh.
Comment ?
Elle va le manger.
Ah oui, non, mais on va lui couper le morceau.
Eh oui, ça fait 36 heures qu'on regarde la télé, là, avant-hier. Tout d'un coup, on rafugie, ça y est. L'or qui est tombé, oh putain, j'ai dit bon, demain on s'en va. Et hier j'étais pas là.
Donc,
bon, eh bien,
je te la confie, tu vas la tenir comme ça. Tu vas poser les poussins.
Bon, je vous laisse.
Comme ça. Et là, elle bouge plus. Okay. Là, voilà.
Alors là, j'ai contre moi une chouette-ulotte qui a été trouvée dans un conduit de cheminée. Donc on vérifie si elle va bien. Si elle est en bonne santé. Alors Jean-Claude est en train de dépecer des poussins pour pouvoir lui donner à manger.
Oui. Allez, à demain alors. Ouais, nourrissez-la bien, hein. Il faut que ça me fonde pour me choper les doigts. Hein.
Allez, moi, non, non. Pas de gros souci.
C'est quoi une? C'est quoi comme truc?
C'est
chouette une autre, oui. Bien d'accord.
Attention de passer au-dessus de la langue.
Elle est magnifique. Du coup, Jean-Claude, vous allez faire payer la personne qui l'a amené ou vous allez le faire bénévolement?
Alors, en fait, on a affaire à un animal sauvage. Un animal sauvage, ça veut dire qu'il appartient à personne. Donc, on ne peut pas déjà faire payer quelqu'un pour un animal qui ne lui appartient pas. Donc, à partir de là, nous, on est une association. Alors, c'est vrai qu'on a une mission d'intérêt général puisqu'on s'occupe d'animaux d'espèces protégées.
et on les traite gratuitement, mais ceci dit, on a quand même des frais. Il faut qu'on arrive à fonctionner. Et c'est très compliqué, parce que donc c'est une mission d'intérêt général et qu'on est les seuls à reçu.
Alors là on est dans l'accueil, donc c'est l'endroit où on accueille les gens et où on s'occupe de noter les animaux qui viennent d'arriver. Ou voilà. En face on a un chalet où on met les animaux qui viennent d'arriver, donc renards, hérissons et petits oiseaux, ça dépend. Après quand on monte on a deux volières, donc là en ce moment on a des buses à l'intérieur avec des lapins. Et au-dessus, on a des boxes où on a des renards. Au-dessus, on a l'endroit où on cuisine. Donc, c'est là où on prépare tous les repas chaque matin. Donc, découper les pâtes et les mettre les graines et tout. Voilà. Et après, on a à côté, juste à côté, une petite volière où on a une chouette chevêche en ce moment même. Au-dessus, on a un chalet où il y a les faucons cresserettes qui sont en reproduction. Et au-dessus, on a deux volières, deux petites volières où il y a un hibou grand-duc et un pigeon avec des lapins. Alors, qui travaille avec moi, y a Mélanie qui est dans la même école que moi, donc c'est la MFR. Donc Valrance, la maison familiale rurale, spécialisée sur la chasse, la nature et la pêche. Il y a Monsieur Ostruy, donc qui est le directeur de cet endroit. Et il y a moi qui suis en stage, donc qui vient aussi de la MFR.
Dissonance avec
Mode Pesser
sur Radio Sainte-Afrique.
Alors, Monsieur Struy, je voudrais savoir si qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour faire ce métier.
Alors moi, en fait, je suis un autodidacte. Je suis un passionné d'environnement depuis plus de 50 ans. Et quand j'ai débuté un petit peu dans ce domaine, il n'y avait pas de métier spécifique, il n'y avait pas de formation spécifique, comme toi tu en as une actuellement. Dans une école spécialisée, donc des métiers à l'environnement, à l'époque c'était uniquement en termes de biologie, c'est-à-dire des scientifiques, mais qui faisaient une approche très partiale de tout ce qui touchait à l'environnement, et en particulier sur la biologie approfondie des espèces. Donc autodidacte, passionné, je me suis fait petit à petit, et puis quand on aime, on apprend, et je crois que j'ai beaucoup appris, et ça m'a beaucoup apporté.
Je suis en train de faire à manger pour le pigeon qu'on a dans la volière en haut. Là, je suis en train de mettre du blé et du pain pour le nourrir, du coup. À côté de moi, j'ai 54 poussins qu'on a coupé les pattes pour les faucons cresserellettes, qui sont en reproduction. Voilà. Et après les poussins ils sont morts bien sûr, hein, c'est obligé, parce qu'on va pas leur couper les pattes encore quand ils sont vivants. Là je suis en train de réduire en miettes du pain, mais vraiment petites miettes, parce que les pigeons sinon ils arrivent pas à le manger. Donc on essaye de faire les plus petites miettes possibles. Là en quelque sorte c'est un peu comme la cuisine, c'est-à-dire que c'est là où on prépare à manger, c'est là où on fait à manger quoi. Et puis on a aussi juste à côté on a des petits box pour les oiseaux qui viennent d'arriver, pour les observer, pour voir comment, enfin, qu'est-ce qu'ils ont. Après, on en a qui ont des foulures de l'aile, des fractures, des trucs comme ça. Du coup, on les met en observation. Puis après, quand ils vont mieux, on les met dans une petite volière. Et puis après, on voit. Donc là, on est dans un endroit tout noir où c'est un endroit d'observation pour observer les faucons cresserellettes en groupe production. Il y a pas mal de faucons cresserellettes en reproduction. Après, il y en a qui sont pas. On a des nichoirs. Et il y a des nichoirs bon, qui sont vides ou les œufs sont froids. Voilà. Donc, j'ai vu des faucons cresserellettes. Donc, je les ai observés et je sais que les mâles ont une tête bleue. Et les femelles sont tigrées. Enfin, pas tigrées, mais. Un peu, ouais. Voilà. Donc. Maintenant, je vais aller faire les bus variables et les lapins qui sont en dessous. Au passage, je vais mettre un poussin sur la volière. Donc là, je suis en train d'ouvrir la volière des bus variables et des lapins. Donc là, je vais poser la viande pour les bus. Alors, les bus sont des rapaces qui mangent de la viande, comme tous les rapaces d'ailleurs. Donc là, je suis en train de lancer la viande parce qu'on essaye de s'approcher le moins possible des oiseaux. Des électrocutions, ils peuvent se coincer dans des grillages ou on les retrouve choqués par des voitures aussi. Je suis en train de couper de la viande pour les renards. Donc on a 6 poussins, 3 souris et un peu de viande pour 3 renards. Pourquoi ils sont là les renards ?
Ah, alors les renards, c'est très, très différent. En fait, il y en a. Ils proviennent de. Un qui provient du Tarn, l'autre qui provient du Lot, l'autre qui provient de la Lozère et l'autre de l'Aveyron. Alors il y a des causes très diverses. Soit les parents se sont fait écraser sur la route, soit il y en a un où c'est un chasseur qui a tué la mère, qui a pris le petit, et puis qui s'aperçoit au bout de quelques jours qu'il ne savait pas quoi en faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est toujours assez absurde. Alors la polémique sur les renards, elle existe, bien sûr. Ce sont des animaux qui sont considérés bien souvent comme des nuisibles. Ben, nous, on considère que tous les animaux ont leur place dans la nature. Et en particulier, le vrai problème par rapport aux renards, c'est que si on détruit des renards, eh bien, ce sont les renards qui sont à côté qui finissent par regagner le territoire. Et donc finalement, on ne résout rien du tout. Ce qui résout vraiment la présence et la quantité de renards, c'est les possibilités alimentaires. Et il ne faut pas oublier qu'en la matière, ben, le renard il consomme certes quelques gibiers parfois, ou quelques animaux qui ne sont pas gibiers aussi, mais il consomme surtout des rongeurs. Et quand on sait que sur l'Aveyron, il y a des campagnes qui sont menées avec des poisons bien souvent douteux, et qui détruisent aussi les autres espèces, ben autant laisser les renards et ceux qui s'occupent des campagnols.
Alors moi je suis resté là 5 semaines, bon pas d'affilée parce que j'étais en alternance, mais j'ai apprécié. Et là, c'est mon dernier jour aujourd'hui, du coup j'essaye d'en profiter au maximum. J'essaierai de revenir pour aider Jean-Claude, parce que franchement j'aime bien ce qu'il fait et c'est vraiment sympa envers les animaux sauvages. Voilà. Alors, Monsieur Struy, ça fait combien de temps que tu travailles dans ce métier ?
Alors donc, le centre de sauvegarde, on l'a créé il y a maintenant 35 ans. L'environnement, c'est une passion toujours. Hein. Avant, je m'occupais d'une association qui s'appelait Nature Aveyron, qui était beaucoup moins spécifique, c'est-à-dire qu'on s'occupait non seulement des problèmes liés à la faune sauvage, mais aussi de tout ce qui touchait à l'environnement. C'était l'époque où il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à l'environnement, et à l'époque où, quand on s'y intéressait, c'était vraiment sur des actions concrètes. La protection des espèces, qui maintenant sont quand même mieux protégées qu'à l'époque. Et puis alors, les problèmes concrets, on découvrait les problèmes liés aux déchets, on découvrait à ce moment-là les problèmes liés aux pollutions atmosphériques, etc. Donc ça fait plus de 40 ans.
Dissonance avec
Mode PCR sur Radio Sainte-Afrique.
Est-ce que tu as fait un mot le Grand-Duc ?
Non, là j'étais en train de faire le pigeon.
Je fais le pigeon des lapins, je vais m'occuper un mot des Grand-Ducs et de l'autre côté. Ah, tu peux prendre le pigeon là ? Mais tu peux prendre pour le Grand-Duc aussi alors ?
Oui, oui.
Ok, ça marche.
Là je suis en train de préparer un plat pour le hibou Grand-Duc. Donc il faut 5 poussins et un peu de viande. Je vais découper la viande en petites lamelles. Parce qu'après, en gros, il ne peut pas manger. Bon, maintenant, suivez-moi. On va aller s'occuper du Grand-Duc. Enfin, on va aller nourrir le Grand-Duc. Alors là, on est en haut de la sauvegarde. On a le pigeon avec dans la volière les lapins. Et on a le Grand-Duc. Donc là, je vais mettre la nourriture dans le taquet. Alors la nourriture, il y a un poussin et des tranches de viande pour les oiseaux qui sont déjà libérés et qui viennent manger ici. Alors le taquet, c'est... je sais pas comment dire, c'est un endroit où on met la nourriture pour que les oiseaux viennent et manger quand ils ont pas, quand ils n'arrivent pas encore à trouver la nourriture. Là on va rentrer dans la volière du Grand-Duc. Faites pas de bruit s'il vous plaît. Alors là je suis en train de lancer des poussins pour qu'il puisse manger, parce que bon, on essaye de pas lui amener pour pas qu'il s'habitue aux hommes. Ça fait très longtemps qu'il est là. Donc. Alors un Grand-Duc, c'est un peu comme un hibou, mais il y a plusieurs ducs. Il y a le grand, le petit et le moyen. Donc là, c'est une grande taille. Le plus grand peut faire 70 cm de hauteur. Là, je vois une pie qui est rentrée à l'improviste dans la cage. J'espère qu'elle arrivera à ressortir. Sinon, je vais aller prévenir Jean-Claude. Et quel outil le plus important on utilise ici ?
Alors je crois que l'outil le plus important finalement, c'est la connaissance des espèces. Connaissance des espèces, parce que pour pouvoir traiter des animaux sauvages, eh bien, il faut non seulement avoir des connaissances en matière de soins, mais il faut surtout bien les connaître pour pouvoir les réintroduire dans le milieu naturel dans les meilleures conditions possibles. En fait, il ne suffit pas de traiter un animal sauvage de le soigner, de le remettre sur pied ou sur elle, pour être certain qu'il va s'en sortir dans la nature. Mais il faut bien connaître sa biologie pour le relâcher au bon endroit, au bon moment et dans les meilleures conditions.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous citer quelques espèces de rapaces ou d'oiseaux que tu connais ?
Ah, je ne prétendais pas les connaître toutes. C'est vrai qu'ici, on est plutôt spécialisé dans les rapaces. On n'est pas tellement spécialisé dans les oiseaux d'eau ou dans les mammifères marins. Ceci dit, il est évident qu'ici, on a des espèces emblématiques, intéressantes. Parmi les rapaces, je crois qu'on peut citer les grands rapaces comme les vautours, les grands ducs, les aigles royaux, et des espèces comme ça. Et puis parmi les mammifères, je crois que les espèces qu'on reçoit le plus souvent, en fait, ce sont les hérissons, bien sûr, en passant aussi par les écureuils parfois, les chauves-souris, puisqu'on reçoit aussi des tout petits mammifères, les mammifères volants, hein, les chauves-souris. Par contre, il est vrai aussi qu'on ne reçoit pas des gros mammifères tels que les sangliers ou les chevreuils. Pourquoi ? Parce que d'une part, nous n'avons pas les installations spécifiques pour ça, hein. Il faut des grands enclos et on n'a pas ni les moyens ni la place d'avoir de telles structures.
Comment tu fais pour transmettre ta passion aux stagiaires et aux personnes qui viennent t'aider ?
Alors je crois que la transmission, c'est quelque chose d'important, mais je pense que tous les gens qui viennent ici, que ce soit les stagiaires, les bénévoles ou nos salariés, sont des gens qui au départ ont un petit peu la fibre environnementale, et c'est quelque chose qu'on a au départ. Après on approfondit, on apprend à connaître et à gérer, mais je crois que cette passion finalement on l'a tous au fond de nous, et ça commence très très jeune.
Dissonance avec
Maud Pesser sur Radio Saint-Afrique.
Je trouve que c'est sympa parce que du coup quand on trouve un animal, on le ramène ici, on le soigne, on l'observe, et puis quand il va mieux, on le relâche, quoi. Du coup c'est un peu comme si on était une infirmière, quoi, pour les animaux. Moi je trouve que Jean-Claude Destruy, il a beaucoup de courage pour faire ça, parce que bon, c'est assez épuisant, mais si ça lui fait plaisir, c'est le plus important. Après c'est bien parce que c'est la seule sauvegarde qu'il y a en Aveyron, donc mais il n'est pas payé, donc puisqu'il est à la retraite. Mais il prend sa passion au cœur, quoi. Il est impressionnant à voir. Merci à Jean-Claude Destruy.
Alors c'est un petit peu la difficulté qu'on a par rapport à la création de ce centre, il faut savoir que pour le construire, on a certes obtenu des aides financières, en particulier des collectivités, hein, qu'elles soient locales, la mairie de Millau, qu'elles soient départementales, le conseil général, ou régionales, voire régionales, donc la région Midi-Pyrénées à l'époque. Lorsqu'il s'agit de construire, on arrive à obtenir des aides, mais lorsqu'il s'agit de fonctionner, alors là, je dois dire que c'est un petit peu le gros regret que j'ai par rapport au fonctionnement de ce centre depuis maintenant 25 ans, c'est que j'ai jamais réussi à obtenir un fonctionnement pérenne qui nous permette d'avoir au moins un salarié pour faire tourner cette structure. Et ça, c'est quelque chose d'autant plus décevant qu'on est quand même dans une région censée être un petit peu à la pointe en matière d'environnement. C'est une région très très riche. Il y a 44-45 centres comme le nôtre en France. Et je crois qu'on est un des rares à n'avoir jamais pu obtenir un financement pérenne, une aide au fonctionnement. La question que je me pose, moi, c'est que On a certes des aides à l'emploi, c'est ce qui nous permet d'avoir des salariés
précaires,
assez, dans des périodes assez, assez longues. La difficulté, c'est que ces aides à l'emploi sont sur des salariés qui ne font que passer, donc il faut les former. Lorsqu'ils sont formés, lorsqu'ils sont passionnés, parce qu'on a toujours affaire à des gens passionnés et qui pourraient être vraiment efficaces, eh bien, les emplois aidés sont finis, donc ils s'en vont. Et lorsque dans quelques années je ne serai plus là, il va y avoir un vide, c'est évident. Hein. Il va y avoir un vide sur la région. On couvre non seulement le département de l'Aveyron, mais aussi le département de la Lozère, une partie du département du Gard, une partie de l'Hérault, une partie du Tarn, une partie du Lot, le Cantal. Ben, le jour où le centre sera fermé, il faudra que les gens qui ont la responsabilité de l'environnement sur le département ou sur le sud Aveyron prennent en charge les animaux ou se débrouillent tout au moins pour réaliser ce qu'on réalise.
Et pour éviter que ce centre disparaisse, ça dépend de qui ? De la mairie, de la région, du département, de l'État ? Le ministère de l'Environnement pourrait pas...
Alors en fait, ça dépend un petit peu de tout le monde. Le paradoxe de la loi de protection sur la protection de la nature qui a été mise en place en 1976, c'est qu'on dit la plupart des animaux sauvages, allez, 99% des animaux sauvages, sont des animaux d'espèces protégées par la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les transporter, on ne peut pas les tuer, bien sûr, on ne peut pas utiliser leurs œufs, on ne peut pas les commercialiser. Alors ça, c'est ce que la loi dit. Et c'est vrai que la loi, elle applique ce texte. Mais par contre, la loi n'a jamais dit que lorsqu'il y avait des animaux blessés ou en difficulté, ben, il fallait les soigner. On devait intervenir pour créer des structures qui permettent de les sauver. Non, on les protège, mais on ne les sauve pas. C'est ça un petit peu la difficulté de cette loi. C'est que les structures qui ont en charge... par exemple l'activité environnementale sur le parc, ici c'est le parc naturel régional, hein, qui a cette délégation. Et effectivement, il a le devoir lui aussi de protéger ses animaux, mais il a le choix quant aux moyens de cette protection. Donc pour lui, non, le parc naturel régional ne considère pas qu'il faut nous aider à fonctionner.
Parce que le parc aurait son rôle à jouer là-dedans, quoi. Il pourrait
tout
vraiment,
à fait. Mais c'est ce que font la plupart des parcs naturels régionaux en France, y compris les structures départementales, lorsqu'il n'y a pas de parcs naturels régionaux, interviennent dans les centres de sauvegarde, dans pratiquement tous les centres de sauvegarde de France, sauf nous. C'est extraordinaire. C'est le plus gros échec un petit peu de ma vie. Hein. Et d'autant plus qu'on nous dit toujours que Midi-Pyrénées, c'est vrai, il y a une richesse au niveau de l'environnement en matière de faune et de flore qu'on ne trouve que dans quelques départements de France. Moi, ma plus grande source de satisfaction, c'est lorsqu'on arrive à relâcher des espèces un petit peu emblématiques et qu'on les voit partir. Et surtout, lorsqu'on sait que quelques années plus tard, ils sont toujours là. C'est le cas en particulier, je pense à l'aigle royal que nous avions récupéré, qui avait percuté une ligne électrique il y a maintenant une dizaine d'années. Cet aigle royal, on l'a gardé ici en convalescence pendant 2 mois. On l'a relâché équipé de bagues et puis d'un émetteur, on l'avait relâché sur les gouales. Et puis quelques années après, c'était le royal et il a été retrouvé en tant que faisant partie d'un couple reproducteur, donc qui produisait des jeunes dans les gorges du Tarn du côté de Florac. Alors ça, c'est une satisfaction extraordinaire. Et puis bon, la satisfaction, c'est lorsque des animaux qu'on a bagués, on sait qu'ils se sont reproduits et puis qu'ils ont retrouvé leur habitat naturel. Ça, c'est extraordinaire. Je ne suis pas tout jeune, hein. Moi j'ai 65 ans, donc effectivement ça va durer encore quelques années, mais il faudra bien qu'un jour la relève soit prise, et puis j'espère que surtout l'activité pourra continuer, même si j'ai des espoirs assez limités.
Voilà, en fait on se rend compte de l'importance des bénévoles quand il n'y en a plus. Merci Jean-Claude Ostruy et longue vie au centre
voilà,
de
puisque
sauvegarde.
Vous parlez des bénévoles, si oui. Vous permettez, je voudrais peut-être leur rendre hommage, parce que c'est vrai que notre centre il fonctionne avant tout grâce aux bénévoles. 90% au moins de son fonctionnement, et tous les ans ce sont des dizaines de personnes qui viennent comme moi ici, hein, peut-être un peu moins assidûment, mais qui sont là et qui nous aident à traiter tous ces animaux, et donc je crois qu'il faut aussi leur rendre hommage, et je profite de cette occasion. Merci.
J'ai négocié de mon piano l'entrée en rade de Bilbao. Chacun sa route, chacun sa trace, chacun ses flots. J'ai reposé mon vieux piano en cale sèche pour quelques travaux. Chacun sa route, chacun sa trace, chacun ses flots. Je suis reposé comme tous les matelots entre les fesses de quelques travaux. Chacun sa route, chacun sa trace, chacun ses flots. Chacun ses flots, chacun ses flots, chacun ses flots, chacun ses flots.
Merci à Jean-Claude Ostruy. Merci à Elsa pour sa chronique politique.
Mille élèves, mille vaches, mille vieux, mille malades. Et si, contre les logiques concentrationnaires, la modernité était dans les petites structures? Pour échanger sur ce thème, les allumeurs de Réverbère vous invitent à une soirée témoignage-débat le vendredi 25 novembre à 20h30, salle du Caylus à Saint-Afrique. Nous recevrons Jean Poli, pour qui l'avenir est dans les petites structures. Pour lui, la petite école n'est pas un problème, c'est une chance. Il en est de même pour les hôpitaux, les élevages, les cantines, etc. Le lendemain, Jean Poli, qui est aussi poète-chanteur et adore partager sa passion, nous présentera son spectacle « Cache-cache ta vie ». Il est possible de faire connaissance avec Jean Poli en réécoutant l'émission de Dissonance du mois de septembre.
Elle faisait vœu de silence à chaque nouvelle lune. Et moi j'attends comme un connard que la baleine me recrache. Je prie à genoux tous les saints de Florence en riant. La nuit dans mon petit lit, je les vénère en chantant. Mais je sais très bien que ça ne servira à rien, car je sais très bien qu'il n'y a qu'avec toi que je peux le faire. Je sais, je suis un ange, surtout quand ça m'arrange. Et je suis beau comme une sirène le premier mercredi du mois. Et le jour où le soleil ne se lèvera pas, moi j'arrêterai de t'aimer, mais ça n'arrivera jamais. Car je sais très bien que ça ne servirait à rien. Oui, je sais très bien qu'il n'y a qu'avec toi que je peux le faire.
Vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique à la page Dissonance. Vous y trouverez aussi des liens qui vous renverront sur le site du centre de sauvegarde et vous donneront des pistes pour contribuer à soutenir ce centre exceptionnel. Cette émission sera rediffusée lundi 24 octobre à 20h et mercredi 26 octobre à 11h. Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.